Une nouvelle page de l'histoire s'ouvre. Impossible de dire à quel moment nous vivons une nouvelle page marquante de l'histoire humaine. Quand on essaye de donner de l'importance à un événement, on annonce que nous vivons un moment historique. On peut avec une certaine certitude dire que ce printemps 2020 est historique avec ce coronavirus puisque cela touche quasiment tous les pays du globe dans une même période. C'est un moment unique que nous vivons. Cela part d'un foyer qui se répand peu à peu sur les autres territoires à une vitesse grand V du fait de la mobilité des personnes. Dans un autre domaine, celui de la foi chrétienne, le récit d'aujourd'hui a eu un impact totalement insoupçonné au départ par ceux qui en ont été les premiers témoins. Bien entendu, il a fallu des siècles dans ce cas pour que son effet se déploie à toute grande échelle. Je vous invite à découvrir une petite partie de ce récit du livre des Actes.
À cette époque-là, le roi Hérode entreprit de mettre à mal certains membres de l'Église. Il supprima par le glaive Jacques, le frère de Jean. Et quand il eut constaté la satisfaction des Juifs, il fit procéder à une nouvelle arrestation, celle de Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. L'ayant fait appréhender, il le mit en prison et le confia à la garde des quatre escouades de quatre soldats. Il se proposait de le citer devant le peuple après la fête de la Pâque. Pierre était dans une prison, mais la prière ardente de l'Église montait sans relâche vers Dieu à son intention. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre dormait entre deux soldats, maintenu par deux chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte. Mais tout à coup, l'ange du Seigneur surgit, et le local fut inondé de lumière. L'ange réveilla Pierre en lui frappant le côté. « Lève-toi vite !» lui dit-il. Les chaînes se détachèrent des mains de Pierre, et l'ange poursuivit. « Mets ta ceinture et lace tes sandales !» ce qu'il fit. L'ange ajouta « Passe ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit à sa suite. Il ne se rendait pas compte que l'intervention de l'ange était réelle, mais croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi un premier poste de garde, puis un second, et arrivèrent à la porte de fer qui donnait sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils allèrent au bout de la rue et soudain l'ange quitta Pierre, qui reprit alors ses esprits. Cette fois, se dit-il, je comprends. C'est vrai que le Seigneur a envoyé son ange et m'a fait échapper aux mains d'Hérode et à toute l'attente du peuple des Juifs. Il se repéra et gagna la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Il y avait là une assez nombreuse assistance en prière. Quand il frappa au battant du portail, une jeune servante vint ouvrir, qui s'appelait Rodet. Elle reconnut la voix de Pierre et du coup, dans sa joie, elle n'ouvrit pas la porte mais entra en courant pour annoncer que Pierre était là devant le portail. « Tu es folle !» lui dit-on. Mais elle n'en démordait pas. « Alors, c'est son ange » dirent-ils. Pierre, cependant, continuait à frapper. Ils ouvrirent enfin. C'était lui. Il n'en revenait pas. De la main, il leur fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison et conclut « Allez l'annoncer à Jacques et aux frères. » Puis il s'en alla et se mit en route pour une autre destination. Au lever du jour, il y avait de l'agitation chez les soldats. Qu'est-ce que Pierre avait bien pu devenir ? Hérode le fit rechercher sans réussir à le trouver. Il fit donc procéder à l'interrogatoire des gardes et donna l'ordre de les emmener. Puis il descendit de Judée à Césarée, où il passa quelque temps.
« Il s'agit encore d'une vision. Pierre est visité par Dieu alors qu'il ne s'y attend pas du tout. Son ventre a faim et son esprit est pris par cette préoccupation de premier niveau. Cela dit, il faut absolument parler du contexte de ce récit de vision surprenante en disant qu'un autre personnage a reçu lui aussi une vision. Décidément, ce livre des actes des premiers apôtres est celui de l'esprit qui agit, mais lequel esprit est généreux en intervention extraordinaire. On peut certes s'en étonner, mais on peut aussi se dire que ces visions ont joué un rôle extraordinaire dans le déploiement de cette petite secte, dans le sens de voir la méditation changer durablement, cette petite secte issue du judaïsme. Cela a donné un élan spirituel et missionnaire insoupçonnable pour une si petite grappe de croyants. Au début de ce chapitre, Luc nous raconte l'histoire d'un centurion romain qui est en prière et à qui Dieu s'adresse. Tiens, tiens, voilà que Dieu parle aux étrangers à présent. Eh oui, le Dieu de Jésus-Christ est universaliste. Ni blanc, ni européen, ni toutes les cases où on veut l'enfermer. Dieu est ouvert au monde, n'en déplaise aux étroits d'esprit, qu'ils soient religieux, politiques ou même philosophes. Donc le Seigneur s'adresse à ce centurion romain nommé Corneille, en tant qu'ennemi juré des Juifs, et l'avertit qu'il lui faut envoyer des serviteurs pour aller chercher un dénommé Pierre dans un lieu nommé Joppé. Les envoyés rencontrent Pierre qui vient de recevoir cette vision avec les animaux. Pierre les suivra et rencontrera Corneille, et ce qui était improbable avant ces deux visions se réalise. Un juif pieux, Pierre, se rend chez un centurion pieux. Deux mondes se rencontrent. Revenons à présent à la vision de Pierre. Pierre a faim d'une nourriture capable de satisfaire l'appétit de son corps affamé. Est-ce que Dieu le manipule pour mieux faire passer son message? Non, mais probablement il y a là derrière une pédagogie du lien entre la nourriture terrestre et le message divin, puisque beaucoup d'interdits sont alimentaires dans le judaïsme d'alors. C'est donc une bonne porte d'entrée pour ouvrir une nouvelle voie au changement que Dieu apporte par le Christ ressuscité, qu'il s'agit à présent d'annoncer à tous les habitants connus de la terre. Pierre est en extase. Le mot employé en grec parle d'être hors de soi, avoir son esprit égaré. Donc Pierre sort de son monde pour voir autre chose. Un grand tissu, une toile étendue aux quatre coins de l'horizon qui représente le monde entier avec toute la création pour le nourrir, et cette injonction « Allez Pierre, tue et mange ».« Allez » peut se traduire « étant debout », verbe de la résurrection, « mets-toi debout, ressuscite ». Découvre une autre dimension de cette nouvelle foi en Christ. Ce n'est pas qu'il peut se servir du monde pour se nourrir et détruire la création, mais plutôt il n'y a plus d'interdit, plus aucun. Tu et mange, c'est une invitation à casser les codes des anciens interdits alimentaires. Autrement dit, Pierre, la portée de la bonne nouvelle passe par une libération des règles stériles auxquelles tu étais soumis jusqu'ici et qui conditionnent ton esprit jusque dans tes relations aux autres. Et ce raisonnement passe par les catégories du pur et de l'impur. Les catégories rassurantes, binaires, manichéennes qui prétendent répartir le monde en cases. Tu es dans la bonne case ou tu n'y es pas. Tu fais partie du bon club ou tu es en dehors du bon clan. Déjà Jésus avait annoncé la couleur en disant à propos du pur et de l'impur, et là je cite, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. » Fin de citation de Matthieu 15. Dit autrement, les catégories du pur et de l'impur ne sont pas déterminantes pour Dieu. C'est plutôt ce que tu fais à partir de ce que tu reçois. Ça, c'est ce qui est essentiel. Sinon, nous sommes dans le déterminisme. Car du moment que l'on fait partie des impurs, comme Corneille, le Romain dans cette histoire, jamais Dieu ne peut s'intéresser à ce genre de personnage, ou à moi si je fais partie de ces impurs. Or, le message de cette vision de Pierre est justement de briser les barrières que les humains se fabriquent pour se rassurer et de rendre les croyants responsables de leurs choix, libérés des anciens carcans. Et c'est là que tout change. Dieu, par cette vision donnée à Pierre, me fait confiance et me donne la liberté d'inventer un monde où je vais à la rencontre de celui ou celle qui ne me ressemble pas. Cela demande des efforts d'imagination sur la base d'une vision ouverte et universelle. Je ne peux plus me réfugier dans une application stérile de commandements ou de règles auxquelles j'adhère par facilité, sans réfléchir. Je suis obligé, de me poser des questions sur les rapports humains à partir de cette vision où les catégories du pur et de l'impur, du dedans et du dehors, ne font plus sens. Bon, je m'arrête là, car j'ai un repas qui m'attend. Au menu... À propos, quel est le menu de vos relations aux autres? Je ne mange que ce que je connais. Je suis prêt à goûter à la nouveauté.